Bruno Bourjac est notre invité, militant politique. Il veut faire évoluer son parti, Les Républicains.
Et nous allons faire connaissance avec Bruno Bourjac, une tête que je ne connaissais pas au niveau des Républicains. Bonjour Bruno Bourjac.
Bonjour.
On peut vous demander de vous présenter brièvement d'abord ?
Oui, bien sûr. Donc j'ai tout juste 40 ans. Je suis encarté dans ce parti qui est Les Républicains depuis maintenant presque un an. Je suis professeur d'histoire, docteur en histoire. Et j'enseigne dans le secondaire pour l'instant, en attendant, je l'espère, un poste fixe de maître de conférence à Aix-en-Provence.
Vous vous êtes présenté à l'investiture pour les législatives dans la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, et ça a créé un certain ressentiment chez vous.
Oui, ce ressentiment vient du fait qu'en réalité, j'ai essayé d'ouvrir ce parti, et je continue d'ailleurs à essayer d'ouvrir ce parti. Il me semble que pour être le représentant d'un parti politique, quelle que soit son orientation, eh bien, c'est à la base de choisir qui les représentera. Et il me semblait que le mode de fonctionnement des investitures était quelque peu obsolète, voire dépassé, puisqu'il s'agit de la Commission nationale d'investiture, qui a toute sa légitimité d'ailleurs, qui investit les candidats sur Paris au terme d'une procédure assez obscure, entre 3-4 personnes qui décident qui va être investi. Or, il me semble encore une fois que ce sont les militants et plus largement l'ensemble des sympathisants de droite et du centre qui doivent se prononcer.
Alors sur cette circonscription, c'est Magali Sur-le-Girieux qui a été désignée par cette commission d'investiture. Qu'est-ce que vous reprochez à cette désignation très exactement et concrètement ?
Alors je ne reproche d'abord rien à Magali Sur-le. Je trouve que c'est une élue de terrain qui fait un travail formidable, qui a fait d'ailleurs plusieurs mandats, qui a un rôle aussi au niveau intercommunal très important. Donc, personnellement, je n'ai aucun grief à lui faire. Ce que je reproche de façon très claire et très précise, c'est que notre parti choisit d'investir quelqu'un au terme d'une procédure qui est totalement cloisonnée et obscure, qui choisit d'investir quelqu'un qui n'avait pas sa carte au Parti Les Républicains quelques semaines avant les investitures, qui oublie d'écouter les militants, qui n'auditionne pas les candidats à l'intérieur du comité. Je pense qu'il eût été logique que chacun des candidats puisse exposer sa vision du territoire, ses propositions pour ce territoire et pour les gens qui le peuplent. En architecture, on emploie beaucoup cette expression « peupler, habiter les lieux » et je trouve qu'elle est tout à fait juste. Donc, faire ses propositions, en débattre, ouvrir ce parti, il me semble que c'était pour le moins ce qu'on eût dû faire. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a choisi Magali Sur-le sans nous consulter, sans consulter la base, à Paris. Et ensuite, on a dit circuler, il n'y a rien à voir.
Alors, on va fermer la page de l'investiture, ouais. Si vous voulez bien, et parler de vos programmes et de votre volonté de faire changer ce parti, les Républicains. On a bien compris qu'il y a, au-delà du ressentiment, il y a peut-être une vision différente, en tout cas, de ce parti, aussi bien au niveau départemental, certainement, que national.
Oui, je pense qu'il faut, pour reprendre les mots de Bruno Le Maire, il faut changer nos manières de faire de la politique. Alors changer nos manières de faire de la politique, ça ne veut pas simplement dire renouveler le personnel politique. C'est très bien de renouveler le personnel politique, mais il ne s'agit pas de faire du jeunisme pour faire du jeunisme. On peut avoir 50 ans, 60 ans et avoir des idées novatrices. On peut avoir 25 ans et avoir des idées totalement rétrogrades. En réalité, donc, il faut imposer de nouvelles têtes et avec des idées pour le moins novatrice. Donc moi, par exemple, je pense que la démocratie représentative a aujourd'hui fait son temps. Je suis pour une démocratie participative. Alors bien sûr, tout le monde parle aujourd'hui de démocratie participative, et si on ne définit pas ce que cela veut dire, c'est une coquille vide. Concrètement, qu'est-ce que ce serait pour moi une démocratie participative ? Eh bien, dans le cadre de la campagne des législatives, c'est organiser des comités citoyens dans chaque canton, les faire participer à la rédaction de mon programme sur des thématiques précises et prendre en compte ce qu'ils ont à me dire et l'intégrer à l'intérieur de mon programme, à l'intérieur de boucles de rétroaction.
On peut vous accuser de populisme en faisant ce genre de choses.
Le populisme, c'est quoi ? C'est écouter le peuple ? Dans ce cas-là, je suis populiste. Le populisme, au contraire, c'est manipuler le peuple. C'est orienter ses volontés, les déformer et s'en servir. Le populisme, c'est ce que fait par exemple le Front National quand il fait une campagne pour les régionales, en parlant de terrorisme, en parlant d'euros, en parlant d'immigration, alors que ces thématiques ne sont pas dans les prérogatives du Conseil régional. Ça, c'est du populisme. Si vous allez à une réunion du Front National, et je l'ai fait, vous assistez à des propositions qui sont en dehors des compétences du Conseil régional. Et pourtant, ça n'a pas l'air de gêner les gens. Il faut dénoncer ce que fait le Front National, mais le dénoncer de façon claire, objective, précise.
Et surtout quand il est hors sujet.
Exactement.
En plus.
Dans le 04, le Front National fait des scores considérables. Il faut se poser la question, pourquoi le Front National fait des scores considérables dans le 04 ? Les gens du FN dans notre département ne sont pas les mêmes que ceux de Martigues, Marignane, Vitrolles ou Marseille. Ils ne sont pas racistes, antisémites, xénophobes. En réalité, les gens qui font partie du Front National dans le 04 viennent directement des Républicains. Autrement dit, si vous regardez les chiffres des militants des Républicains et les chiffres des militants du FN, vous avez une histoire de vases communicants. Donc c'est l'impéritie de nos propositions, le vide idéologique de la droite républicaine, tant au niveau national qu'au niveau local, qui fait qu'aujourd'hui, le Front National monte. À cela s'ajoute naturellement l'impéritie et l'absence de socle idéologique de la gauche aussi. On a en France un champ politique qui est en train de se reformuler et qui laisse la part belle au populisme et aux démagogues.
Alors on a senti que vous avez un regard aigu et à la fois très sévère, un jugement sévère sur le monde politique aussi bien départemental que national. Concrètement, vous allez vous présenter aux législatives en 2017 ?
Alors écoutez, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, le parti Les Républicains a statué au travers de sa commission nationale d'investiture.
Mais rien ne vous empêche de vous présenter, par exemple.
Et a investi, j'y viens, Magali Surle. Un mot sur cette investiture qui, pour moi, n'a rien de définitif. Elle n'a rien de définitif parce que au mois de novembre, les primaires vont investir notre candidat pour les présidentielles. Et selon qui sera ce candidat, eh bien, ces investitures seront pour partie, voire largement remises en cause. Par conséquent, jusqu'au mois de novembre, pour le moins, je vais continuer à sillonner le département, à rencontrer des gens et à faire des propositions. Donc oui, je suis candidat, candidat pour essayer de faire changer les choses, candidat pour faire des propositions sur ce territoire, et peut-être allons-nous y venir de façon concrète, car il y a énormément de choses à faire sur ce département qui est absolument magnifique, qui a des potentialités et des virtualités formidables et qui, jusqu'à présent, ont été sous-employés.
Alors juste une question, quand vous dites département, c'est la première circonscription
oui.
ou les deux ?
Alors, vous avez raison de poser
la question.
Vous avez raison de poser la question. Je suis candidat aux législatives sur la première circonscription. Mais on ne peut pas penser être simplement candidat sur une circonscription, surtout dans le 04. Donc je suis candidat sur la première, mais je pense au département dans son ensemble.
Vous savez également que les députés sont des députés du peuple français et pas du tout des députés de leur circonscription. C'est une mention différente. Vous représentez la France quand vous êtes élu au palais Bourbon. Donc c'est une chose importante à savoir. Vous avez des exemples de choses que vous pourriez amener au niveau national ?
Alors oui, bien sûr. Je pense que on ne peut pas, et la politique souffre de cela d'ailleurs, on ne peut pas dire je vais tout faire, je vais tout changer. D'ailleurs, je pense qu'il faut plutôt employer l'article « on ». Donc j'ai une équipe, j'ai des gens qui travaillent avec moi et on va essayer de faire des choses. Un député, vous l'avez dit, son rôle c'est principalement et essentiellement de voter les lois et de voter d'ailleurs des lois qui sont le fruit des cabinets ministériels et de la volonté gouvernementale. Bon, ceci dit, je pense que, étant député d'un territoire rural, j'ai à faire valoir des propositions de loi rurales et qui défendent la ruralité. Vous savez que nous avons différentes lois d'aménagement du territoire qui vont à l'encontre de cette ruralité. Je pense notamment à la loi NOTRe en 2015 qui a modifié...
C'est la nouvelle organisation du territoire de la République.
Exactement, qui a modifié l'aménagement du territoire et qui touche de plein fouet les territoires ruraux. Un exemple, les seuils pour les intercommunalités, les seuils, c'est-à-dire les paliers, le nombre d'habitants qu'il est nécessaire de recueillir pour faire ces intercommunalités sont passés de 5 000 à 10 000. Sur un territoire comme le nôtre, et sur la première circonscription, ça aboutit à l'aberration, que nous ayons Moustier-Sainte-Marie qui fasse partie de la même intercommunalité que Seignes-les-Alpes. Quel est, je pose la question, quel est le point commun culturel, politique et même économique?
On peut vous dire aussi quel est le point culturel entre les Bretons et les Corses, qui font pourtant partie d'une même nation.
Oui, vous avez raison, mais ce qui est bon pour la nation n'est pas forcément bon pour le territoire. Et
question
pour le
d'échelle.
Local, naturellement. Donc la loi que je proposerai, c'est ce que j'appellerais un PAC pour les territoires ruraux. À l'intérieur de ce PAC pour les territoires ruraux, il y aura plusieurs propositions. Et ce sera finalement, les thématiques qui seront emblématiques du mandat que je veux exercer. Le numérique. Je pense que le numérique est un enjeu déterminant pour ce territoire. Je ne peux pas, en tant que candidat aux législatives, vous dire, eh bien, écoutez, j'arrive, d'ailleurs comme l'ont fait Jean-Louis Bianco et bien d'autres, et je vais désenclaver ce territoire. Vous allez voir, par la RN 85, je vais désenclaver le bassin d'Innois, notamment. On sait très bien que c'est un sujet très compliqué. Mais par contre, on peut avoir une logique de contournement, j'allais dire. C'est-à-dire que le numérique peut nous permettre de désenclaver ce territoire. Donc je m'engage à ce qu'à la fin de mon mandat, il n'y ait plus de zone blanche, voire grise, au niveau numérique. Ça permet de dynamiser notre tissu économique. Il n'y a pas d'industrie dans la première circonscription, il n'y en a pas. Et on n'industrialisera pas ce territoire. Et d'ailleurs, il ne le faut pas. Par contre, on peut le développer d'un point de vue économique à partir de projets. Donc le numérique permettrait de développer les plateformes de télétravail, permettrait de développer le coworking et permettrait donc de venir travailler dans le 04 et d'être connecté, j'allais dire, avec le monde entier. Donc ça, c'est une thématique qui me semble très forte.
Alors ça n'est pas nouveau, puisque quand même Patricia Granet-Brunello, qui est le maire de Digne, met en avant cette question, notamment au sein de la communauté de communes qui est autour du pays dignois. C'est le cas également du SMO, le fameux syndicat mixte ouvert, qui est présidé, aidez-moi, Bruno Bourjac actuellement, il était présidé par Christine Nivou. Je crois que c'est Chantal Emehoud peut-être qui préside ce syndicat.
Je crois.
En tout cas, c'est maintenant une personnalité, un conseiller régional de droite, et qui fait un travail remarquable au niveau de la région et des deux départements alpins, qui permet ce désenclavement numérique dont vous parlez. Il nous reste peu de minutes, malheureusement, peu de secondes pour ainsi dire. Les prochains mois, Bruno Bourjac, qu'allez-vous faire ?
Alors les prochains mois, je vais continuer à avancer. Encore une fois, j'insiste sur cette idée de démocratie participative. Je ne viens pas à la rencontre des bas alpins avec un programme tout fait. J'ai des thématiques, je vous ai parlé du numérique, le désert médical est une autre thématique, le développement de l'agritourisme, des AMAP, chapeauté par une coopérative, peut-être je reviendrai en parler devant vos micros, est une autre de mes thématiques fortes. Donc je ne viens pas avec un programme tout fait, j'ai des thématiques et c'est aux Bas-Alpins que je vais rencontrer, d'alimenter et de rédiger avec moi ces thématiques.
Si on veut vous contacter, comment on fait, Bruno Bourjac ?
Eh bien, il y a un Facebook, naturellement, il y a une page Ambition 04 et il y a également un site internet Génération 04 qui reprend l'intégralité des propositions que je fais pour ce territoire.
Merci beaucoup Bruno Bourjac d'avoir été mon invité. On a fait connaissance avec votre programme et j'apprécie personnellement votre dynamisme et je trouve que c'est intéressant et ça peut apporter quelque chose de positif dans notre département.